prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le toucher de la foi.
Ces belles histoires de la Bible, il y en a. Il y en a à chaque page de l'Évangile. Et cela, eh bien, est quelque chose qui peut véritablement nous faire du bien dans nos perplexités, dans parfois nos questionnements, nos problèmes que nous pouvons rencontrer. Eh bien, nous avons, c'est vrai, tellement de belles réponses qui nous viennent de la part de Dieu. Alors, je vous propose que nous fassions cette lecture dans Marc, chapitre 5 et au verset 25, c'est un texte bien connu que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu, également dans l'évangile de Luc, avec quelques petites variantes, mais si peu. Alors, je vous rappelle, donc, cette lecture, nous allons la faire dans Marc, évangile de Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, « ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà, j'aimerais simplement ce soir vous parler, nous entretenir sur le toucher de la foi. Alors, c'est assez paradoxal parce que la foi nous donnerait-elle la possibilité de toucher Dieu? Alors, on va essayer de comprendre le sens puisque on voit que cette femme s'est approchée de Jésus, elle était malade, et elle est repartie guérie. Alors, on va essayer d'expliquer un peu tout cela. Tout d'abord, laissez-moi dire que la Bible, qui est vraiment le livre de Dieu fait pour les hommes, eh bien, rapporte très fréquemment dans ses pages le témoignage d'un Dieu qui guérit les hommes de leur maladie. Dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans l'Ancien Testament, sous le régime de cette grâce que Dieu nous a donnée, ce que l'on appelle la guérison divine, eh bien on s'aperçoit très fréquemment, et à suivre Jésus dans tout son pèlerinage et dans tous ses voyages, on le voit eh bien là guérir certainement des dizaines, des centaines de personnes. On pourrait parler de l'Évangile aux mille guérisons et délivrances. Il y a des hommes qui ont su en parler de cette intervention divine de guérison miraculeuse. Il y a un homme qui a dû certainement faire l'expérience, il s'appelle David, c'est le roi que nous connaissons. Eh bien, nous dit et écrit dans un de ses psaumes, le psaume 30, il dira ceci, c'est une prière. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Et tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Alors je ne sais si c'était une guérison physique, vraisemblablement plutôt, eh bien là, une tristesse ou une grande souffrance morale, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. On peut comprendre que c'était peut-être une intervention de Dieu, plutôt dans son être psychique, dans son être intérieur. Ou encore, il dira et il soulignera d'une manière tout aussi particulière dans le psaume 103, il écrit ceci, c'est lui, en parlant de Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Voilà. Et nous voyons que, certainement avant le temps, bien avant le temps, David avait bien compris la relation qu'il y avait entre le mal, le péché et ses conséquences, la maladie. Alors, ce n'est pas tant sur ce sujet que je voudrais m'étendre ce soir, mais néanmoins, il le dit. Tu pardonnes les iniquités, et une fois que le pardon est bien là, a fait son œuvre, je suis guéri. C'est le psaume 51, c'est le psaume 132, toujours de David. Dans le psaume 107, hein, il est dit ceci, l'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Et ce soir, nous ne sommes pas là pour rien, nous sommes là pour entendre sa parole. Et si nous sommes souffrants, malades ou atteints d'une quelconque infirmité ou autre chose qui affecte notre vie, eh bien, nous entendons sa parole parce qu'il nous a donné sa parole pour nous guérir. Mais avec naturellement la compréhension, et ce qu'il entend et ce qu'il attend de nous, c'est que nous mettions notre foi dans sa parole. Et c'est par la foi dans sa parole que je peux obtenir eh bien, la délivrance dont j'ai besoin. Alors, après toutes ces citations, eh bien, Jésus a fait son apparition sur la scène de notre monde, et on le sait parce que ça revient énormément, exerçant un ministère de guérison et de délivrance parmi une foule de malades et de malheureux. On le voit par exemple dans le chapitre 4, c'était un sujet que nous avons eh bien, commenté il y a quelques jours ensemble, quand il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés et puis délivrer les hommes de leur infirmité, de leur captivité, de leur oppression, de toutes sortes de choses. Il y a un autre témoignage qui nous est donné, et celui-ci, eh bien, il résume finalement eh bien, la profusion de cette main divine qui, du ciel, répand cette grâce, cette guérison sur les hommes. Écoutez, dans Matthieu, il nous est simplement rapporté au chapitre 15. « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Et écoutez bien, on les mit à ses pieds et il les guérit. » Voilà ce que faisait Jésus. Je dis bien ce qu'il faisait. Et moi, je voudrais peut-être diriger notre cœur, diriger votre cœur sur ce que Jésus encore fait aujourd'hui. Parce qu'on pourrait peut-être inscrire ça dans un passé très lointain, mais moi je pense que si nous partons du principe que Jésus est vivant, eh bien les malades d'hier comme les malades d'aujourd'hui et probablement ceux de demain, qui confrontés avec la promesse que Dieu leur donne et leur fait, eh bien sont capables de saisir encore cette puissance divine pour apporter non seulement le soulagement, mais véritablement une complète et totale guérison. Nous y croyons de tout notre cœur. Et je voudrais que dans une certaine mesure, nous en avons fait nous-mêmes l'expérience. Alors nous ne parlons pas d'une théologie qui serait perdue là, dans toutes sortes de paroles, mais c'est une vérité expérimentale. Et voilà qu'au verset 25, dans le texte que nous avons choisi ce soir, il nous est dit qu'une femme atteinte d'une perte de sang, eh bien, souffrait depuis 12 ans. Voilà. Je voudrais dire quelques mots sur la maladie. On sait à peu près ce que c'est. Mais on a beaucoup de mal à véritablement eh bien, cerner ce phénomène affligeant, ce phénomène qui peut conduire jusqu'à la mort, qu'est la maladie qui atteint les hommes, ce qu'elle est et ses conséquences. D'abord, je voudrais dire que la maladie ne fait aucune distinction, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, que l'on soit un savant ou que l'on soit un ignorant, que l'on soit blanc ou que l'on soit d'une autre couleur, ça n'a pas d'importance, la maladie, elle frappe tous les hommes. C'est une chose entendue. Et puis, elle a pour résultat, pour conséquence, c'est qu'elle ruine et bruise et brise la vie de ceux qu'elle atteint. J'ai le souvenir de cet homme dont il nous est parlé dans la Bible, qui s'appelle Naaman, un homme qui était au fait de sa gloire. Il était général de l'armée de Syrie. Et à un moment donné, alors qu'il était honoré de tous, que toute la vie, toute sa carrière eh bien, lui souriait, il était atteint par le mal de la lèpre. Jusqu'à finalement, eh bien là, ne trouver aucune solution et devoir se résoudre à attendre la mort. Alors, nous nous apercevons que là, eh bien, il y a eu aussi eh bien, une manifestation de la grâce de Dieu. Et déjà avant le temps, avant Jésus, eh bien, le fleuve de la vie et le fleuve de la guérison coulaient déjà. Donc, ça ruine et ça brise la vie des hommes. On a vu quelquefois, et j'ai entendu des témoignages de gens qui ont dû arrêter leur carrière parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Parce que soit ils avaient les reins cassés, ou il y avait autre chose qui faisait qu'ils ne pouvaient plus continuer le métier qu'ils eh bien exerçaient. Et puis, la maladie, quelle qu'elle soit, elle met l'homme dans un état d'infériorité, voire même de complexe. Tout dépend de la nature de cette maladie, mais quelquefois elle peut être tellement invalidante, tellement paralysante, tellement déformante, qu'elle nous met en état physique, mais aussi en état moral d'infériorité, où les gens n'ont plus de goût et ni de saveur à l'existence. Et puis, elle emprisonne l'existence, la maladie. Oui, je dis bien, elle emprisonne l'existence, et nous savons que quelquefois il s'agit tout simplement d'une maladie bénigne, et nous voyons que derrière tout cela, eh bien, il y a des conséquences, naturellement, d'invalidation. Et puis, elle est imprévisible également. Malgré tous les moyens de l'homme moderne aujourd'hui pour la combattre, hein, que ce soit l'hygiène, que ce soit la science médicale, où nous pouvons saluer finalement les progrès que les hommes font, et ils le font parce que, bon, Dieu leur a donné l'intelligence. Mais toujours est-il que, quelque part, elle survient ici, elle survient là, elle peut être la conséquence de tellement de choses, de l'accident ou autre. Et puis elle est redoutée par tous. Vous savez, tous les 1er janvier, la première chose que l'on dit, c'est « je vous souhaite une bonne santé ». Et quand on a une bonne santé, on ne sait pas le trésor que nous possédons. Alors elle est redoutée, c'est vrai. Et un homme de l'ancienne alliance, qui s'appelait Job, eh bien pouvait dire ceci, « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Voilà, c'est ce qui m'atteint. Alors, on pourrait dire aussi que la maladie, elle est meurtrière. Parce qu'elle est la cause d'innombrables décès. Alors, tout le monde ne meurt pas de la maladie. Fort heureusement, hein, et je le soulignais tout à l'heure, les hommes ont fait des progrès dans bien des domaines, et c'est remarquable. Mais toujours est-il qu'on sait qu'à un moment ou un autre, elle va nous atteindre et elle va nous emporter, forcément. La maladie, je l'ai souligné tout à l'heure, est liée directement à notre nature d'homme pécheur. Voilà. On pourrait peut-être imaginer ou rêver d'un monde où il n'y aurait pas le mal. Imaginez-vous. S'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas la conséquence que l'on appelle la maladie. Et avec tout ce que cela en découle. Et on voit que Jésus a souligné dans un cas particulier, eh bien, le lien qu'il y a entre la corruption de la nature humaine, le péché, si vous voulez, avec ses conséquences. Un jour, Jésus, se trouvant à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, va guérir un homme qui est paralysé, lui, depuis 38 ans. Et Jésus va lui dire, « Eh bien, maintenant, tu es guéri, va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc, Jésus montre bien que la racine même des maux dont nous sommes affligés physiquement, moralement, ou dans notre esprit, d'une manière ou d'une autre, a quand même une raison, une mauvaise raison, c'est tout simplement, eh bien, le péché. Et puis voilà que nous avons lu également, et je voudrais donner quelques mots sur ce sujet, il nous a dit que cette femme était malade depuis 12 ans. On pourrait dire qu'elle avait appris à gérer sa vie dans le temps, avec le mal, avec son mal. C'est pas très agréable quand on est malade pendant une journée ou deux, c'est vrai. On est souvent atteint de petites infections passagères. Et c'est vrai qu'on a toujours la sensation, quand on était un petit peu sévèrement bousculé, eh bien, de dire, eh bien, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui revivait en nous. Hein. Après une bonne grippe, on est un petit peu chancelant, on ne sait plus tellement où on en est rendu, hein, on titube. Mais néanmoins, on sent que les forces reviennent. Imaginez-vous que vous êtes atteint d'une maladie sans aucunement, pendant des mois et des mois et des mois, voir vos forces revenir. Et ça, c'est... Imaginez-vous qu'il y a le mal, mais il y a aussi cet état de déprime qui peut s'installer. Et cette femme souffrait depuis longtemps. Et je suppose qu'à chaque fois qu'elle entamait une année, elle se voyait vieillir, elle voyait perdre ses forces, parce que bon, c'est comme ça, c'est la nature. Plus le mal qui la vidait en elle-même, elle devait véritablement être profondément malheureuse. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, un état maladif. Et là, il faut compter sur quelque chose de terrible, c'est le facteur temps. Jusque à quand ? Ouais. Combien de temps cela va-t-il durer ? Alors il y a des espoirs. Et puis il y a des déceptions. Et puis quelquefois on se prend à croire qu'il y a quelque chose qui va se passer. On se sent mieux et puis on commence à faire un petit peu plus qu'à l'habitude et on retombe encore davantage. C'est ça justement la maladie, c'est terrible. Je voudrais simplement faire une remarque hein, au passage. C'est que l'épreuve du temps porte parfois les hommes, je dis bien parfois, hélas, porte les hommes parfois à réfléchir et place le malade en face de ce qu'il est, c'est-à-dire de lui-même. Et je dirais, je ne veux pas en faire une règle, Il n'y a rien d'absolu dans ce que je vais dire, mais parfois, dans certaines circonstances, Dieu permet des temps d'arrêt dans notre vie pour casser le rythme endiablé dans lequel nous sommes portés. Et à travers parfois une immobilisation d'une manière ou d'une autre, lorsque nous sommes alités, lorsque nous sommes à la maison et que nous ne pouvons pas faire autrement que d'y être, alors à ce moment-là, eh bien, nous nous mettons à réfléchir que ou nous n'avons jamais eu le temps de réfléchir sur les choses. Et nous nous mettons à penser. Peut-être pour le chrétien, il va se mettre à prier tout à nouveau, alors qu'il avait peut-être perdu la régularité ou l'habitude de se tourner vers Dieu. Mais là, parce qu'il souffre, il va poser des questions. Il va dire, mais Seigneur, pourquoi? Et Seigneur, comment? Et qu'est-ce que tu vas faire? Et je te demande de faire quelque chose. Et je suis convaincu que Dieu agit à ce moment-là. Et combien aussi encore de témoignages n'avons-nous pas entendus de gens qui sont venus nous dire, eh bien, vous savez, mon mal, ma maladie a changé complètement, radicalement ma vie. Surtout quand on est aux portes de la mort. Où nous avons parfois, eh bien, reçu ces paroles en disant, ma vie ne sera plus du tout la même maintenant, désormais. Je sais ce que c'est. J'étais à deux doigts, finalement, de quitter cette terre. Eh bien, Dieu m'a pris. Alors, cet homme de souffrance qui est Job, celui dont nous avons cité tout à l'heure et qui craignait finalement ce qui lui arriverait, eh bien, a écrit, certainement après son relèvement, parce qu'il a été très malade, hein, ou dans sa maladie, il dira, mais par la douleur, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continuelle vient agiter ses os, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Vous savez, quand l'homme passe toutes les bornes, quand il passe toutes les limites, et qu'il ne veut pas s'arrêter en pensant que finalement il est plus grand que Dieu et que son orgueil l'aveugle, eh bien, quelquefois, eh bien, Dieu permet des circonstances qui ne sont pas forcément pour nous réjouir, mais qui vont nous amener à une prise de conscience et qui ensuite, lorsque nous avons bien compris le message, vont nous amener dans une autre dimension, peut-être de paix avec nous-mêmes, de paix avec les autres, de réparer certaines choses et de voir notre guérison se faire et de vivre une nouvelle dimension à notre existence. C'est par la souffrance qu'il l'avertit, parce que Dieu ne veut pas que nous nous perdions. Cette femme était malade d'une perte de sang. C'est vraisemblablement une maladie qui devait entraîner, outre les inconvénients physiques, un fardeau moral, une humiliation, parce qu'en Israël, ce mal-là, dont les femmes étaient atteintes, eh bien, était considéré comme une impureté religieuse. Et c'était quelque chose de difficile à vivre. C'était la religion qui avait décrété ça. Et on sait que probablement, elle vivait probablement très très mal, eh bien, ce qui lui arrivait, cette pauvre femme. Elle avait, nous dit le texte, beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. On pourrait peut-être expliquer les choses de cette manière. Elle avait souffert entre les mains des hommes, peut-être avec des techniques médicales de l'époque qui ne devaient pas être comme celles d'aujourd'hui, on peut peut-être le deviner, mais elle avait surtout souffert vainement d'espérer. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Cette femme s'était naturellement tournée vers ceux desquels elle attendait du secours. Comme nous-mêmes, naturellement, lorsque nous sommes malades, eh bien, nous allons frapper à la porte de notre médecin. Et il va nous prescrire des médicaments, il va nous examiner, et puis ensuite, eh bien, nous allons suivre le traitement et essayer de trouver naturellement eh bien, la solution, l'apaisement. Et quand on est souffrant, eh bien, elle a cherché des solutions. Comme nous le ferions, vraisemblablement. Mais, quelquefois, on cherche n'importe quelle solution pour s'extraire de ce qui nous fait mal. Faire n'importe quoi pour guérir, nous tourner vers n'importe qui pour guérir, mais surtout ne plus jamais souffrir. Plus souffrir. Et nous voyons que la souffrance est bien fait reculer, naturellement, et bien certainement les plus hardis. Il y a des nobles solutions qui peuvent être données par Dieu, par les hommes, par le truchement des hommes. Il y a des solutions douteuses et dangereuses. Je voudrais souligner au passage, parce que ça, c'est exploitation de la misère, tous ceux qui se précipitent vers les guérisseurs, vers tous ceux qui, là, eh bien, se réclament d'un don d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vérifier de quelle manière ils travaillent et avec qui ils travaillent. La guérison divine, c'est un autre monde, c'est autre chose. C'est la vie et la lumière, ça vient de Dieu. Mais on voit que dans notre société, pourtant qui est une société rationaliste, une société où les gens pensent et analysent, de les voir se prêter entre les mains de gens qui ne sont absolument pas docteurs, qui n'ont aucune compétence médicale, et qui sont en train de prescrire d'une manière ou d'une autre, et toutes sortes de choses, et certainement avec, une instrumentalisation de moitié religion, d'occultisme religieux, de toutes sortes de choses, ou de magie populaire, naturelle, enfin toutes sortes de choses. Ça, ce sont des méthodes douteuses et dangereuses, je l'ai dit il y a un instant. Donc cette femme avait placé sa confiance dans les hommes, dans leur capacité, dans leur savoir, mais nous l'avons vu, hélas, elle va se trouver devant un constat d'impuissance. Et combien avait-elle fait de médecins? Combien avait-elle frappé de portes parce qu'on lui avait recommandé celui-ci, celui-là? Et elle était d'aller à celui-ci, à celui-là. Et finalement, c'est pour ça qu'il nous a dit qu'elle avait beaucoup souffert. Souffert d'avoir peut-être trop espéré. Et à un moment donné, quand on ne peut plus espérer parce qu'on était trompé, parce qu'on ne sait plus où on en est rendu, eh bien, que reste-t-il? Elle avait beaucoup souffert. Souffert physiquement, mais souffert moralement. Pourtant, c'était une femme israélite, vraisemblablement, son histoire nous le laisse penser, et avait-elle oublié l'Éternel qui guérit? Parce que s'il y avait quelque chose qui était présent en permanence dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, dans ce que tout Israélite, tout Juif connaissait, c'est qu'il y avait aussi un Dieu Tout-Puissant, il l'appelait d'ailleurs le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, mais avait-elle, comme bien d'autres, oublié tout simplement, eh bien, que ce Dieu était aussi un Dieu de compassion, qui répand sa grâce sur les malheureux, sur les souffrants, sur les désespérés. La foi dans ce Dieu Tout-Puissant était conditionnée par son environnement général. Comme nous pourrions le dire aujourd'hui, dans notre monde, soi-disant chrétien. Et l'environnement d'Israël où vivait cette femme au moment où Jésus a fait son apparition, vous savez ce que c'était comme environnement? C'était l'incrédulité. On ne croyait plus en rien. Et aujourd'hui, nous nous apercevons que dans notre société judéo-chrétienne, chrétienne, eh bien on s'aperçoit que les gens ne croient pas réellement. Ils croient dans les valeurs les plus évidentes du christianisme, mais dans un Dieu qui est ressuscité, dans un Dieu qui vit au milieu des hommes par son esprit, dont la parole est encore une puissance et une dynamique pour le corps, l'âme et l'esprit, alors les gens n'y croient plus. Ils vont préférer peut-être se tourner vers ce monde bizarre, étrange, ténébreux de l'occultisme, plutôt que de se tourner vers la Bible et d'invoquer le nom de Jésus. Alors, elle vivait dans ce contexte d'incrédulité comme nous d'ailleurs. En d'autres termes, on pouvait dire que dans le monde de cette femme au moment de l'Évangile, comme dans notre 21e siècle, eh bien les gens n'y croient plus. Dieu est mort. Voilà, Dieu a disparu. On ne sait plus où il est. Mais c'est une dramatique ignorance qui lui a valu de rester quand même, il faut le dire, constatation faite, 12 ans malade. Vous savez, c'est extraordinaire quand on est souffrant. Et que la première réaction que nous avons, c'est de commencer par prier en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma vie. » Pour ceux qui le savent, pour les chrétiens qui le savent, nous sommes encouragés dans notre première démarche d'abord à nous tourner vers Dieu, et puis peut-être que Dieu nous conduira d'une autre manière. Mais il peut le faire d'une manière royale en nous guérissant immédiatement. Ça se fait encore. Ça se réalise encore, autrement je ne serais pas là pour vous le dire ce soir. Parce que dans le monde entier, cette parole de la puissance et de la vie de Christ parmi les hommes de notre temps, eh bien c'est une réalité et c'est prêché dans le monde entier. Alors elle est restée pendant 12 ans malade, que de temps perdu, sans savoir que Dieu est toujours le même pour guérir autrefois, aujourd'hui et vraisemblablement demain. Je vais un peu plus loin, il nous est dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Souffrance physique, nous avons dit. Souffrance morale. Et sa maladie l'avait réduit à la misère. Parce que, comme aujourd'hui, comme hier, comme aujourd'hui, eh bien, se faire soigner, ça coûte. Et nous pouvons vraiment bénir le Seigneur de vivre dans un pays comme le nôtre, où il y a quand même des assurances sociales, des assurances maladie. Ce qui n'a pas été certainement le cas pendant les siècles auparavant, et ce qui n'est pas vrai probablement aussi dans tous les pays, même dans notre époque. Alors, et cette femme, eh bien, avait dilapidé en quelque sorte le peu d'avoir qu'elle avait, plus d'argent, peut-être plus de travail. Alors quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, et la maladie s'installe, et c'est une situation, c'est un grand problème. C'était le problème numéro un de cette femme, c'était sa santé, comme vous rencontrez aujourd'hui des gens qui vous disent, mais moi, si je pouvais avoir la santé, si j'étais comme tout le monde, si je pouvais faire ce que je faisais avant, eh oui, mais c'est comme ça. C'était sa préoccupation numéro un, la priorité sur toute autre chose dans sa vie, parce qu'elle était polarisée sur son mal. Et vous savez ce que c'est d'être polarisé sur le mal ? Imaginez-vous, vous avez tous eu certainement une rage de dents. Hein. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien qui compte. Hein. C'est la dent. Cette maudite dent qui fait mal. En attendant le redoutable dentiste. Mais on sait qu'on y va quand même s'il fait mal, c'est qu'on n'aura plus mal après. Et il y a des gens qui n'ont plus qu'une idée en tête, c'est leur souffrance. Et ça réduit l'existence. Ça détruit l'existence. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. C'est triste. C'est terrible, naturellement. Souffrir pour guérir, on est d'accord. Mais le contraire, quand il n'y a pas d'espoir, quand il n'y a rien, aucun aboutissement. Cette femme, certainement, devait vivre successivement des espérances déçues et on l'avait probablement trompée. On lui avait dit, mais ça ira mieux. Parce que quand vous allez chez les gens qui prétendent vous guérir, ils ne vont pas vous dire, mais vous allez mourir. Avant, ils vont vous dire, mais il faut quand même s'accrocher un petit peu et puis j'ai quelque chose pour vous. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que vous savez, l'espoir fait vivre. Et lorsqu'il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce que nous pouvons faire ? La maladie est parfois plus forte que les hommes. Leur capacité, leur compétence, leur dévouement. Alors que faire ? Même dans notre temps de grandes technologies médicales, et ça, je dis que c'est formidable, quand on voit, en l'espace de 30 ans, les pas de géants que l'on a fait pour surtout les soins du corps, dans la chirurgie et autre chose. Bon, peut-être pas toutes les maladies, tous les maux, ça c'est certain. Mais toujours est-il qu'il y a eu quand même quelque chose de formidable dont on saluait finalement sa raison d'être et puis le bien que cela apporte à l'humanité. Mais malgré tout cela, eh bien, on voit qu'il y a aussi malheureusement des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, d'enfants, de vieillards, eh bien, qui à un moment ou à un autre, eh bien, vont partir du mal dont ils sont atteints. Alors, peut-être déçus, mais je crois qu'au fond de son cœur, parce qu'il fallait un petit peu le lumignon, il fallait souffler sur le lumignon, il y a toujours la petite mèche, vous savez, qui éclaire, la petite étincelle qui fait tout repartir. Alors, peut-être déçus, peut-être trompés, naturellement, à deux doigts de capituler dans cette dimension de l'espoir, mais elle n'avait pas perdu néanmoins tout espérant. Il restait au fond de son cœur quelque chose. Et tant qu'il restera encore quelque chose au fond de notre cœur, eh bien Dieu est capable de faire des miracles. Et le miracle, c'est finalement de rallumer tout ça, de remettre tout ça en route. Et cette femme n'avait pas renoncé, elle n'était pas découragée. Vous savez pourquoi ? Parce que quand elle a entendu dire que Jésus passait par là, elle aurait pu dire, je reste dans ma maison, ça ne sert à rien. C'est Jésus de Nazareth, on me dit qu'il guérit, mais moi je ne veux pas me déplacer, ça ne sert à rien, je serai toujours malade. Non, elle a fait quand même la démarche. Donc il lui restait encore quelque chose, un tout petit peu, mais il fallait encore qu'on souffle sur la mèche fumante. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus connaît la position de notre cœur, je pourrais le dire. Il sait où nous en sommes les uns et les autres. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu savent véritablement où nous en sommes. Dans un domaine ou dans un autre, c'est peut-être pas la maladie, mais c'est peut-être une espérance que nous attendons depuis longtemps. C'est peut-être une situation, c'est peut-être un problème matériel ou autre chose, je ne sais pas, ou une attente de quelque chose de spirituel. Peu importe. Alors il connaît l'état de notre cœur, ça c'est vrai. Et vous vous souvenez qu'au malade, cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, le malade, l'impotent de la piscine de Bethesda, dont j'ai dit qu'il était malade, souffrant, infirme depuis 38 ans. Vous savez ce que Jésus lui a dit ? Veux-tu être guéri ? Après 38 ans, c'est une question saugrenue, n'est-ce pas ? Veux-tu être guéri ? L'homme aurait pu répondre, qu'est-ce que tu veux, ça fait 38 ans comme ça, je suis à la fin de ma vie, ça va être fini. Hein. Non, non, l'homme a réagi à ce moment-là. Bon, il y a eu un petit peu d'hésitation, mais néanmoins, il a quand même réagi. Et c'est ce qui a permis, et c'est la réaction de cet homme où il y avait encore une lueur d'espoir dans son cœur qui se voyait à travers ses yeux, voyant qu'il avait la foi, voyant que, je parle d'un autre homme dans la ville de Lystre, il nous a dit que Paul lui a dit d'un seul coup, tout à coup il lui a dit, bien, maintenant, lève-toi et marche, et cet homme s'est mis à marcher. La lueur d'espoir. Est-ce qu'il y a encore au fond de notre cœur une petite flamme d'espérance en Dieu ? Et la parole que nous entendons ce soir, elle est faite pour amener finalement eh bien, ce sursaut. pour amener cette réaction positive. Veux-tu être guéri ? Le verset 27 nous parle de cette peut-être lueur d'espérance qui apparaît, ayant entendu parler de Jésus. Voilà. Elle n'a pas entendu parler de quelqu'un d'autre, elle a entendu parler de Jésus. Elle ne le connaissait pas trop, certainement. Connaître la renommée de quelqu'un, c'est bien, mais y croire, c'est différent. Donc, elle connaissait sa réputation, mais elle a été beaucoup plus loin. Elle a dépassé les limites dans lesquelles nous sommes souvent retenus par nos doutes, par notre incrédulité, par la maladie, par toutes sortes de choses. C'est qu'elle a cru, finalement, la renommée de Jésus, à travers son ministère, qui était avant tout aussi parmi les hommes pendant 3 ans de guérir les malades. Et elle a eu cette réaction positive au dire de la foule, et elle s'est sentie concernée. On lui a dit, c'est Jésus qui passe. Et elle a eu une réaction qui était favorable. Elle n'a pas haussé les épaules en disant, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ? Comme beaucoup de gens, peut-être rétorquent quand on leur parle de Jésus, mais qu'est-ce que votre Jésus peut faire pour moi ? Vous me parlez des promesses de la Bible, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux livre tout poussiéreux ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2011, eh bien, ces paroles de la Bible peuvent me concerner ? Beaucoup de gens réagissent avec une désinvolture ou un tel découragement, une telle lassitude. Mais ça, ce n'est pas seulement de la lassitude, c'est tout simplement de l'incrédulité. Alors elle s'est sentie concernée, elle s'est dit, si aujourd'hui c'était pour moi, et si aujourd'hui, vous qui entendez la parole, c'était pour vous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a toutes les raisons que ce soit pour ceux qui entendent et qui croient. Ça, il n'y a pas de doute. Elle a cru et elle a fait de Jésus sa solution. Ouais. Elle en avait entendu tellement parler de diverses solutions. Mais là, c'était sa solution. Est-ce que ça ne serait pas pour moi maintenant ? De toute façon, on va le voir dans la manière dont elle va réagir. Parce que je voudrais dire encore une vérité, c'est que la vraie foi, la foi authentique, la foi réelle dans le cœur d'un homme ou d'une femme, nous porte toujours à l'action, pas à la passivité. J'attends. Non. Il va y avoir d'une manière ou d'une autre une réaction de notre part, et qui fait que, eh bien, nous allons mettre en route le processus, finalement, de l'action de Dieu, de la délivrance de Dieu, de l'exaucement de nos prières, que Dieu va nous apporter. Elle est venue, nous dit le texte, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle est venue, elle a fait le pas de venir. Si les hommes qui sont malades dans cette ville de Saint-Nazaire, après avoir reçu peut-être une invitation, un prospectus, un témoignage, venez, non pas dans l'église pour ce qu'elle est, mais venez parce qu'on y prêche Jésus, on y entend l'évangile, je peux vous dire qu'il se passait des choses extraordinaires. Mais nous sommes dans un pays où véritablement il y a une véritable désaffection de la foi. Où les gens... Bon, c'est comme si nous étions des extraterrestres en prêchant l'évangile. Oui, ben c'est vrai qu'on est des extraterrestres. Dans une certaine mesure, bien avec les pieds sur terre, naturellement. Mais on prêche quelque chose qui vient, non pas de la terre, mais vient d'en haut, vient du ciel, et vient de ce Dieu que nous prions et que nous adorons, qui est le Dieu vivant et vrai, et le Dieu tout-puissant, naturellement. Alors elle est venue, et elle s'est mise par derrière, elle a essayé de se frayer un chemin, elle y est arrivée, et elle a touché son vêtement. Sa démarche de toucher prouve combien elle espérait encore, après 12 années de souffrance, et son geste est l'expression de sa conviction. Ouais, de sa conviction. Écoutez bien, toucher Jésus, c'est tendre la main vers lui. On le comprend sur le plan physique. C'est le reconnaître comme le secours possible. Elle l'a fait. Toucher Jésus, c'est une prière sans parole. Parce qu'il y a des prières sans parole. Une sorte de main qui touche où la guérison est dérobée plutôt que demandée. Elle est venue par derrière. Elle avait peut-être honte, naturellement, compte tenu son mal. Pauvre femme malade, qui choisit ce moyen du toucher au lieu de crier, comme Bartimée, par exemple. Fils de David, aie pitié de moi, mais elle ne va pas faire la même chose. Elle a choisi ce moyen du toucher Jésus, tant par le caractère délicat de son mal, puisqu'il était impur, selon la religion, que par le sentiment de rétablir le contact entre elle et la source de la vie, donc de sa guérison. Elle était au bon endroit, elle était au bon moment, et elle a touché la bonne personne. Voilà. Tout simplement. Et c'est ça la guérison divine. Combien de gens sont en train d'errer dans toutes sortes de cabinets obscurs, se faisant manipuler par ceci, cela, ou essayant toutes sortes de traitements qui viennent d'ici ou d'ailleurs, alors que finalement, eh bien, la solution, eh bien, elle est en Christ. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et sa conviction est dans tout son geste. Elle n'a pas dit quelque chose. Elle a touché. Vous savez que la foi se définit ainsi, je le rappelle pour mémoire. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et c'est parce que je ne les vois pas encore, mais que je les crois si fort, qu'elles vont m'apparaître après dans la réalité. Elles vont se concrétiser parce que finalement ma foi va les mettre en évidence. Par l'action de Dieu, tout simplement. C'est ça, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore, mais que nous allons voir. Pour certains, leur conviction repose sur une parole de Jésus. Pour d'autres, ça sera sur un geste. Mais peu importe, ou d'autre manière. Si vous lisez l'Évangile, il n'y a jamais une guérison pareille. C'est toujours différent. Le fait de toucher le vêtement de Jésus n'est pas de la superstition. Je tiens à le dire pour ceux qui auraient tantiné une âme religieuse. Combien de gens sont là à aller dans une église ou dans un édifice religieux et toucher des reliques, et etc., etc., porter je ne sais quel un signe religieux de piété ou de dévotion. Il y a quelques mois, nous étions au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et je peux vous dire, dans ce contexte orthodoxe grec, je peux vous dire que c'était quelque chose. Je voyais un pauvre homme, j'ai dû peut-être vous le raconter, mais un pauvre homme qui était aussi paralysé et porté par sa famille. Et les efforts qu'il faisait, nous étions là, et moi je ne pouvais rien faire. Vous pouvez vous le dire, parce que je me serais peut-être fait... Mais toujours est-il que je constatais, nous constations avec mon épouse, ce pauvre homme tenait à peine debout, et il y avait des icônes le long du mur, mais qui étaient encore plus hautes que le tableau qui est derrière moi. Et là, ils essayaient de le hisser, un homme qui était quand même assez volumineux, ils essayaient de... Il était comme quelqu'un de pantelant, comme ça, c'était terrible à voir, pour qu'il embrasse, tout simplement, le bas du tableau. Je me dis, mais quelle misère! Qu'est-ce que on ne peut pas faire aux gens, alors que la foi, c'est si simple? C'est terrible, ça vous fend le cœur quand vous voyez ce spectacle. Ce n'est pas de la superstition. En aucun cas, ce genre de choses. Ce sont des gestes, mais des gestes qui ne s'adressent pas, finalement, à la bonne personne. Elle a touché Jésus. C'est pas parce qu'on va embrasser un crucifix, qu'on va embrasser là une icône ou autre chose. C'est terrible ça. Terrible, quelle misère. Il nous faut une foi authentique dont la guérison immédiate en est la preuve. Au même instant, nous dit le texte, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La guérison immédiate, dans ce cas, est en rapport avec la qualité de notre foi. Jésus lui dit qu'il se soit fait selon ta foi. C'est pas le Seigneur qui guérit, c'est nous qui dirigeons finalement le résultat. Vous rendez compte ? Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as une grande foi, ben tu vas recevoir de grandes choses. Si tu as une petite foi, eh bien, tu recevras en conséquence. Maintenant, rien n'empêche que ta foi elle augmente. Le Seigneur est toujours là pour la monter un peu plus haut, pour que notre foi soit haussée au niveau et au niveau voulu pour obtenir. Bien des gens limitent l'action et l'efficacité de l'intervention divine par incrédulité ou par le doute. Le Seigneur ne veut pas, le Seigneur ne peut pas. Eh bien moi je voudrais vous dire que le Seigneur peut et le Seigneur veut. Et la solution elle est là. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais quelle vérité ? La vérité de son mal, la vérité de sa maladie, la vérité qu'elle venait d'être guérie tout simplement. C'est une attitude fugitive que nous dépeint, que nous montre cette femme qui tenait à la nature de son mal, nous l'avons dit tout à l'heure. Elle avait peut-être honte de se présenter devant Jésus et de lui demander publiquement de la guérir. Question redoutable, que veux-tu que je te fasse ? Et elle n'osait pas parce qu'il y avait cette pudeur féminine. Et on la comprend, la pauvre femme. Je souffre là. J'ai mal dans mon corps ici. Vous comprenez ? C'était très difficile. Et c'est ça ce qui lui faisait peur. Et devant toute la foule. Encore quand on est devant un médecin et puis qu'on est seul à seul, ça va. Mais là, il y avait Il y avait des curieux, il y avait des voyeurs, il y avait toutes sortes de gens. Ce qui explique qu'elle était venue prendre sa guérison discrètement, secrètement, et je vous l'ai dit, elle l'a dérobé plutôt qu'elle ne l'a demandé. Et le Seigneur lui a donné quand même. Qui lui a donné. Mais il n'y a pas de secret pour Jésus. Il dira, mais qui m'a touché? Jésus comprend les craintes. Il comprend nos craintes. Il connaît nos appréhensions et il veut nous en libérer. Il faut que, pour que notre foi grandisse, nous soyons et nous arrivions à surpasser nos peurs, nos craintes et nos appréhensions. Et à ce moment-là, le Seigneur va nous dégager sur un chemin qui sera un chemin ouvert pour notre foi. La guérison, elle ne commence pas par l'extérieur, elle commence par l'intérieur. Que ce soit une maladie physique ou une maladie morale, demandons au Seigneur de nous guérir de tout cette tempête, de tout ce brouhaha que nous avons dans nos cœurs et dans nos âmes, et d'entendre ces bruits, ces suggestions qui nous mettent dans la confusion. Le Seigneur est devenu nous délivrer de la crainte et de la peur. La conclusion, verset 34. « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il y a là la mise en valeur de la foi qui guérit et qui sauve, les deux. Guérison et salut. Cette foi qui procure le rétablissement de la santé est la même qui conduit à la guérison de l'âme. Oui. Combien dans nos églises d'hommes, de femmes, dans nos milieux charismatiques, sont venus alors qu'ils étaient atteints d'une maladie, une grande maladie ou une maladie tout simplement, et ont fait la découverte que Dieu était celui qui les guérissait et qu'ils ont été beaucoup plus loin, c'est qu'ils ont découvert qu'ils étaient des malades de l'âme et que Dieu voulait leur pardonner leurs péchés et les sauver pour l'éternité. Et ça s'appelle le salut de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas seulement dans un sens pour que nous puissions être véritablement soulagés et délivrés. Ça, je crois que c'est la volonté de Dieu. Il se plaît à voir les hommes en bonne santé. Mais il veut que ça aille plus loin. Que devant un exaucement de prière formidable, extraordinaire à nos yeux, à notre cœur, eh bien nous disions, mais ce Dieu-là, il est vivant. Alors maintenant, je ne veux plus le quitter. Je ne veux pas l'abandonner, je veux le suivre, je veux recevoir sa parole, et je crois que Jésus est mort à ma place, et en raison de cela, eh bien je crois qu'il me sauve. Il m'a sauvé de mon mal physique, mais il me sauve aussi de mon mal spirituel. D'où la parole de Jésus que nous avons lue, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Pour vous dire simplement avant de terminer, qu'il faut à la guérison du corps, comme cette femme, ajouter celle de l'âme, et à la santé recouvrer la paix. Parce que qu'est-ce que ça sert, finalement, d'avoir une santé que nous avons tout à nouveau si nous sommes encore dans le tourment de l'âme? Vous vous rendez compte? Vous avez vu le cheminement? Dieu guérit nos corps. Il guérit nos corps, c'est sûr. Mais avec cette guérison, cette santé que nous avons tout à nouveau, eh bien, il veut que nous soyons en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres et en paix avec lui. Parce que vous savez, le plus grand bonheur que nous puissions connaître sur la terre, c'est la paix. Parce qu'il y a beaucoup de maladies dont l'origine, c'est parce que les hommes sont en guerre. Parce que les hommes sont dans la haine, ils sont dans le tourment, ils sont dans toutes sortes de choses qui les détruisent. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Il n'y a rien de dysfonctionnement dans leur être physique, mais c'est l'âme qui est malade et ça a des répercussions sur le corps. Alors ils ont mal partout. Vous n'avez jamais entendu cela? J'en suis sûr. Tel est le but du miracle de Dieu, délivrer du péché et de la mort. Guérison des corps pour éveiller à une autre dimension plus précieuse et éternelle, c'est-à-dire eh bien, le salut de notre âme. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je trouve que c'est une belle histoire. Il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Nous en reverrons d'autres. Mais c'est pour nous montrer qu'il y a un chemin. Et Jésus nous dit, moi je suis le chemin, suivez-moi. Je vous dis la vérité, alors il faut la croire. Je vous dis, je suis la vie. Alors, s'il est la vie, eh bien prenons-la quand on ne l'a plus. Ou quand elle est en fonctionnement qu'à moitié. Particulièrement pour cause de maladie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Je vous invite à vous incliner avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour le toucher de la foi. Et tu nous as montré encore une fois de plus que certains ont crié, certains ont fait monter des prières vers toi, mais d'autres n'ont rien dit, telle que cette femme. Elle a touché, Seigneur, tout simplement le bord de son vêtement, de ton vêtement, avec cette conviction que si elle parvenait véritablement eh bien, à poser ses doigts, sa main, eh bien, sur toi, eh bien, elle serait guérie. Savons que tout cela, ça ne se discute pas. C'est une conviction très personnelle. C'est une assurance qui est au fond du cœur. Alors je te demande, et nous te demandons tous ensemble, que tu nous aides, Seigneur, à comprendre, à réaliser, Seigneur, et à voir de nos yeux ceux de notre cœur, et bien qu'il y ait une dimension, Seigneur, qui appartient au monde invisible, mais dans laquelle nous pouvons véritablement plonger nos regards, et comprendre que nous avons affaire, dans nos soucis, dans nos maux, dans nos infirmités, dans nos maladies, dans nos souffrances, et bien, Seigneur, que nous avons affaire véritablement à un Dieu qui est rempli de miséricorde et de compassion, et un Dieu qui agit dans la mesure où nous, nous lui faisons confiance. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que tu n'es pas venu supprimer la souffrance des hommes, mais tu es venu la remplir de ta présence. Et ta présence, Seigneur, c'est lorsque tu remplis notre cœur de foi. Et notre cœur rempli de foi nous amène véritablement, ensuite, eh bien, à croire que tu es capable de supprimer cette souffrance, de l'éliminer, Seigneur, parce que tu l'as vaincu à la croix, en mourant pour nous, puisque tu nous dis dans l'Écriture sainte que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous croyons encore aujourd'hui que Dieu est capable de guérir des hommes et des femmes qui souffrent. Et merci, Seigneur, non seulement de les guérir, mais de les sauver. Merci, notre Dieu. Amen. Amen.